VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 9 mai 2016. Au sommaire ce soir.
En République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi est ressorti de son audience au parquet de Lubumbashi. Il rejette les accusations de recrutement de mercenaires étrangers.
Burundi, peine de prison à vie pour 21 personnes condamnées pour le putsch manqué de 2015.
Au Gabon, une coalition de l'opposition réclame la destitution du président Ali Bongo Ondimba.
Il s'agit d'une saisine effective que l'Union sacrée a décidé d'engager en direction du Parlement sur le déni de justice qui gouverne et prévaut au Gabon.
Côte d'Ivoire, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé reprend à la CPI.
En magazine, loyer excessif, expulsion, reportage sur l'enfer de l'immobilier au Bénin.
Voilà un pays où vous n'avez pas de test de loi qui fixe les loyers à payer lorsque vous vous retrouvez dans des appartements de telle dimension.
Bien sûr, l'économie et les sports, tout de suite après le journal.
En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi était convoqué ce lundi devant la justice à Lubumbashi sur des soupçons de recrutement de mercenaires. Nicolas Pinault, il en est ressorti libre.
Oui, selon Narval Mabila, le correspondant de VOA Afrique sur place, l'ancien gouverneur du Katanga est ressorti libre du palais de justice de Lubumbashi. L'homme d'affaires de 51 ans a été entendu suite aux accusations du gouvernement congolais qui le soupçonne de recrutement de mercenaires étrangers. Le 24 avril, Kinshasa avait annoncé avoir arrêté 4 gardes du corps de Katumbi, dont un Américain, lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Le 4 mai dernier, le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de mercenaires étrangers, dont des Américains liés selon lui à Katumbi. Ce dernier avait qualifié de mensonges grotesques ces allégations et de basses manœuvres du pouvoir pour lui nuire à l'approche des élections. Ces convocations interviennent dans un contexte de climat politique très tendu en République démocratique du Congo depuis des mois en raison de l'incertitude liée au très probable report de l'élection présidentielle censée avoir lieu fin novembre.
Au Burundi, la chambre d'appel de Gitega a rendu diverses sentences, dont des condamnations à perpétuité dans le procès des personnes accusées d'être impliquées dans le coup d'État manqué de mai 2015. Parmi les condamnés, des généraux de l'armée qui avaient tenté de renverser le président Pierre Nkurunziza durant la crise occasionnée par sa candidature à un troisième mandat. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Quand le ministère public prononçait ce lundi la condamnation à perpétuité pour les putschistes, tous les accusés ont applaudi ironiquement pour dénoncer un procès qu'ils ont toujours jugé inéquitable. 5 des 7 personnes qui avaient été acquittées par le premier juge ont cette fois-ci été condamnées à perpétuité. La chambre a ordonné leur arrestation immédiate, même s'ils ne s'étaient pas présentés à la barre. Le premier juge avait condamné 17 militaires et policiers à des peines variées entre 5 et 30 ans de prison, mais la chambre d'appel a condamné 5 d'entre eux à 2 ans de prison. Mais les 12 autres ont été condamnés à la prison à vie. Les 21 condamnés ne peuvent également pas travailler dans la fonction publique pour une période de 20 ans. Excepté 2 personnes qui ont été acquittées, les 26 autres doivent payer solidairement une somme de plus de 6 milliards de francs burundais, soit 3 millions et 500 000 dollars américains. C'est le prix à payer qu'a fixé la Cour pour dommages à intégrer aux victimes et destruction des biens le jour du putsch manqué. La défense peut néanmoins se pourvoir en cassation. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours recherchées dans le cadre du coup d'État manqué, dont le général Godefroy Niyombare, considéré comme sa tête pensante. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Gabon, l'Union sacrée pour la patrie a annoncé qu'elle allait saisir le Parlement pour demander la destitution du président Ali Bongo Ondimba. La coalition d'opposition l'accuse d'avoir falsifié son état civil. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Cour pénale internationale, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris aujourd'hui à La Haye. Après plusieurs semaines d'interruption, l'ex-chef de l'État et son ancien bras droit sont poursuivis pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour sa part, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crimes contre l'humanité. C'est ce qui a été annoncé lors de l'ouverture de la session d'assises qui doit juger Madame Gbagbo.
Et Nigeria, 3 hommes accusés de mener des activités terroristes à Lagos ont été condamnés en appel à 25 ans de prison chacun. C'est ce qu'annoncent les autorités. Ils étaient accusés de conspiration, actes terroristes, dissimulation d'informations et possession d'armes et de munitions.
Égypte, la Fédération égyptienne des agences de tourisme a versé 140 000 $ de compensation aux familles de 3 Mexicains tués en 2015 par l'armée égyptienne. Ils avaient été bombardés par erreur.
Et jamais un diamant brut n'avait atteint un tel prix. La compagnie minière canadienne Lucara Diamond affirme avoir vendu pour un prix record 63 000 $ un diamant de 813 carats et baptisé la Constellation. Cette pierre précieuse provient de la mine de Karowe au Botswana.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, les États-Unis et la Russie affirment que leurs efforts visant à calmer la situation en Syrie ont entraîné une baisse significative des affrontements dans certaines zones. Des défis restent à relever cependant, selon une déclaration conjointe publiée aujourd'hui. Les combats ont diminué plus particulièrement dans le nord de Latakié et dans la Ghouta orientale, deux localités où s'applique la trêve négociée fin avril par les deux puissances. L'une des régions encore en difficulté, c'est la deuxième ville du pays, Alep, où près de 300 personnes ont été tués ces dernières semaines. La déclaration conjointe intervient alors que le secrétaire d'État américain John Kerry discutait de la Syrie et d'autres sujets avec son homologue français Jean-Marc Ayrault à Paris.
Premier tour des élections locales au Liban. Une plateforme soutenue par des secteurs modérés revendique la victoire au scrutin d'hier, malgré les efforts des groupes pro-changement. Une alliance appuyée par l'ancien Premier ministre Saad Hariri et d'autres vétérans de la classe politique libanaise a annoncé avoir remporté tous les 24 sièges de la municipalité de Beyrouth. C'est le premier vote du genre depuis la crise des ordures, il y a 8 mois. La ville avait alors connu des manifestations massives. En revanche, dans la vallée de Beka, les listes soutenues par le mouvement chiite Hezbollah ont remporté la plupart des municipalités.
Incendie au Canada, dans la région de Fort McMurray, l'avancée des feux de forêt s'est ralentie, mais l'économie pétrolière du pays va subir une grosse baisse. Des dizaines de milliers de personnes restent éparpillées en Alberta. Miley Segal.
Depuis une semaine, l'incendie de Fort McMurray détruit des milliers de kilomètres carrés de forêts et d'habitations. Surnommé la bête ou le monstre, le sinistre est presque sans égal dans l'histoire de l'humanité. 100 000 personnes ont été évacuées et plus de 1 400 pompiers, 133 hélicoptères et 27 camions-citernes combattent les 43 feux qui ravagent l'ouest du Canada. Ces dernières 24 heures, de petites pluies et la fraîcheur ont réduit la progression du feu. La menace pour les installations pétrolières s'est atténuée. Mais selon Chad Morrison, le directeur du service des incendies de la province de l'Alberta, la lutte prendra encore quelques mois. Les pompiers admettent que ce gigantesque incendie s'éteindra de lui-même. Les conséquences les plus graves sont économiques, Fort McMurray étant le cœur de l'industrie pétrolière du Canada. Ces derniers jours auront fait chuter grandement la production.
Les Panama Papers, qui ont alimenté une cascade de révélations sur l'évasion fiscale, seront en partie accessibles au public à partir d'aujourd'hui au nom de la transparence, mais également dans l'espoir de débusquer de nouveaux scandales. Les détails avec Nani Talani.
Cette mise en ligne répond à un double objectif, faire œuvre de transparence, mais également lever de nouveaux lièvres. Pour Gérard Royol, le directeur du Consortium international des journalistes d'investigation, ICIG, qui a fait éclater le scandale, il faut permettre à la société civile d'obtenir les informations de base sur les Panama Papers, dont la base de données se présentera comme un registre. Les gens qui vont trouver des noms importants pourront contacter l'ICIG et lui transmettre des tuyaux. L'enjeu est aussi dans le maintien de l'élan né après les premières révélations en début du mois d'avril et qui ont conduit certains États à annoncer des mesures contre les techniques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent via les sociétés écrans. Le cabinet Mossack menace de contester en justice la mise en ligne des Panama Papers.
En Caroline du Nord, le gouverneur républicain Pat McCrory a décidé ce lundi d'intenter un procès contre le gouvernement fédéral en vue de maintenir une loi exigeant que les transgenres utilisent des toilettes correspondant à leur sexe à la naissance. Le département de la justice estime que cette législation est une violation des standards nationaux sur les droits civiques. Il avait donné jusqu'à ce soir au gouverneur McCrory et aux universités de la Caroline du Nord pour remédier à la situation. L'enjeu pour cet État du sud du pays, c'est qu'il pourrait perdre des millions de dollars d'aide fédérale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Coup d'œil quotidien sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Le groupe américain Freeport-McMoRan a annoncé un accord sur la cession de la mine congolaise de Tenke Fungurume au groupe chinois China Molybdenum pour 2,65 milliards de dollars. Freeport-McMoRan détient 56% de cette mine de cuivre et de cobalt qu'elle exploite au Katanga. Ce montant pourrait être augmenté de 120 millions en fonction de l'évolution des cours en 2018 et 2019. L'Afrique du Sud espère éviter la dégradation de la note de sa dette malgré un chômage record à 26,7% au premier trimestre 2016, a indiqué le ministre de la Présidence Jeff Radibi, cité par l'AFP. S&P et Fitch doivent réévaluer la note de l'Afrique du Sud le mois prochain. Début décembre, Fitch avait dégradé d'un cran cette note à 3B. La semaine dernière, Moody's a maintenu la note sud-africaine, deux échelons au-dessus des catégories spéculatives, mais a abaissé ses prévisions de stable à négatif. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, réuni en session extraordinaire à Yaoundé, a adopté une nouvelle politique visant le marché et les réserves obligatoires, indique l'APA. L'Institut d'émission a décidé d'uniformiser les coefficients des réserves obligatoires avec la fixation de seuils de constitution pour écarter les banques qui collectent peu d'argent auprès de leurs clients.
Voilà pour Techo. Merci Nathalie.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
À l'actualité sportive, plein feu sur les stades, nouveau décès sur un terrain de football, cette fois c'est au Cameroun.
Et pour nous en parler, en studio, Nicolas Pino.
Bonsoir, et oui, on va parler de cette terrible loi des séries. Moins de 48 heures après le décès tragique de Patrick Ekeng à Bucarest, le football camerounais a de nouveau été durement touché ce dimanche. Janine Christelle Jomnang, la gardienne de but du Femina Stars d'Ebolowa, a succombé à un malaise cardiaque.
Alors, le tribunal arbitral du sport a réduit à 4 ans, Nicolas, la suspension de Michel Platini. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, le TAS hein, qui a réduit cet appel finalement de 6 de toute activité liée au football. Il s'agissait du dernier recours dans le monde du sport pour l'ancien capitaine des Bleus qui démissionne du même coup de la présidence de l'UEFA pour poursuivre son combat devant les tribunaux suisses. Le TAS a également réduit de 72 à 54 000 euros l'amende infligée par la FIFA au patron du football européen.
Bon, c'est pas la fin pour Platini, mais quand même, il voulait au moins avoir la chance de lancer cette Coupe d'Europe en France, dans son pays. Mais...
l'Euro qui commence le 10 juin, évidemment, à Saint-Denis, il ne donnera pas le coup d'envoi de cette compétition européenne.
Match amical entre le Togo et la Zambie, le 27 mai.
Les deux équipes disputeront la rencontre à Lomé au stade de Kégué pour préparer les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour la cinquième et avant-dernière journée de qualification, le Togo et son nouveau sélectionneur, le français Claude Leroy, se rend au Libéria le 3 juin avec obligation de gagner pour conserver une chance de se qualifier.
Et parlons NBA pour terminer, basket nord-américain. Comment va Cleveland ?
Cleveland a décroché son billet pour la finale de la conférence Est, l'équivalent des demi-finales des playoffs, en balayant Atlanta 4-0. C'était hier. Les Cavaliers ont remporté le quatrième match dans la salle des Hawks, 100-99. Ils réalisent depuis le début des playoffs un impressionnant sans faute. Le joueur vedette des Golden State, on va également en parler, le champion en titre, eh bien Stephen Curry, qui ne devrait pas être disponible ce soir contre Portland pour le quatrième match de l'autre demi-finale de la conférence Ouest.
Ouais, il faut dire que même sans Curry, Golden State s'est très très bien comporté dans la compétition. Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et chérubin Gaby Dorsil, ravis d'être en votre compagnie ce lundi. Place au dossier du jour, Morgane. Première escale ce soir, Libreville.
Oui, au Gabon. L'Union sacrée pour la patrie, une coalition d'opposition a annoncé qu'elle va saisir le Parlement pour demander la destitution du président Ali Bongo Ondimba. L'opposition l'accuse d'avoir menti sur ses origines et d'être un enfant adopté par le défunt président Omar Bongo. Pour des précisions sur la démarche, Idriss Fall a joint Mukani Iwangu, un leader de l'USP à Libreville.
Il s'agit d'une saisine effective que l'Union sacrée a décidé d'engager en direction du Parlement sur le déni de justice qui gouverne et prévaut au Gabon, à l'effet d'obtenir la destitution de M. Ali Bongo Ondimba.
Vous êtes d'accord que cela n'a aucune chance d'aboutir au niveau du Parlement, dominé par le PDG?
Ce n'est pas un débat de majorité ou de minorité, c'est un débat de vérité. Comme 1 plus 1, ça fait 2, le fait pour un chef d'État de présenter un document faux doit triompher quelle que soit la majorité. Il s'agit de respecter les procédures. Donc la majorité parlementaire, quoiqu'étant aux couleurs du parti au pouvoir, doit respecter les procédures.
Pourquoi avoir attendu la fin de son septennat et que les élections sont prévues en août?
La saisine, le droit d'aller au juge est un droit ouvert, permanent et continu. Votre serviteur, je le dis, s'est saisi de la question en 2014. Mais avant, M. Luc Bengonsi, dans le cadre du contentieux électoral, a soulevé la question. Donc le débat de la tardivité de notre réaction ne peut pas du tout être instruit ni recevable, parce que des Gabonais se sont signalés sur cette question depuis 2009. L'Union sacrée n'étant créée que depuis à peu près un mois et demi, elle est tout à fait à son avantage et dans ses procédures pour pouvoir le faire.
Ali Bongo dit que cela prouve que l'opposition n'a pas de programme politique.
Observez qu'il s'agit là de deux questions. Celle des programmes renvoie à des élections qui sont à venir et celle de la Cour qui aurait reçu son dossier est judiciaire. La Cour constitutionnelle elle-même, et c'est pour cette raison que on ne peut pas nous faire le reproche d'avoir soulevé la question simplement aujourd'hui, la Cour constitutionnelle elle-même est tout à fait fautive dans son interprétation du droit. Je l'ai poursuivi, je la poursuis pour fraude à la loi. Donc la Cour ne nous paraît pas à ce jour tout à fait crédible pour pouvoir indiquer la voie à suivre.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le dossier de l'état civil d'Ali Bongo en dehors du livre de Pierre Péan?
Les Gabonais n'ont pas attendu Pierre Péan pour réagir puisque M. Luc Bengonsi, dès 2009, a saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer cela. Pierre Péan n'était pas paru, du moins son livre. Celui qui vous parle a saisi la Haute Cour de justice en 2014 et n'a pas attendu M. Pierre Péan. L'un dans l'autre, Pierre Péan a fait ce qu'il avait à faire et nous, nous faisons ce que nous avons à faire. Maintenant, si Pierre Péan alimente notre information ou celle de ses contemporains, c'est tant mieux. Cela montre bien qu'il y a une réalité derrière laquelle il faut clarifier les choses.
Voilà, c'était Mukani Iwangu, un leader de l'USP à Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Mauritanie, 13 femmes meurent chaque semaine du fait de la grossesse ou de l'accouchement de ces suites. Le taux de mortalité maternelle, près de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes, c'est l'un des plus élevés de la sous-région. Alors quelles sont les causes de cette forte mortalité maternelle? Et qu'est-ce qui est fait aussi pour la réduire? Réponse avec Brahim Dia, notre correspondant à Nouakchott.
Les causes de la mortalité maternelle en Mauritanie sont multiples. Toutes ces causes se retrouvent dans ce que les médecins appellent les trois retards. Le premier retard est lié aux mentalités. Docteur Aïssata Ba, directrice de l'hôpital mère et enfant de Nouakchott.
Si par exemple une femme est enceinte, il faut qu'au niveau de la famille qu'elle veuille bien aller se consulter, que son mari la laisse aller consulter, que sa belle-famille la laisse consulter, ou bien qu'elle-même elle décide d'aller tout simplement consulter. Donc il y a un grand travail, un changement de mentalité à faire, même au sein de la famille.
Le deuxième retard est lié à l'insuffisance des infrastructures. Docteur Aïssata Ba.
Une patiente qui décide d'aller se consulter, peut-être qu'elle habite dans un village très enclavé. Comment elle va faire en saison de pluie, par exemple? Comment elle va faire pour accéder au poste de santé? Donc, tout ce qui est infrastructure, route et tout ça, ça, c'est l'État.
Pour un pays d'un million 30 000 kilomètres carrés, en grande partie désertique, il existe des localités éloignées sans poste de santé où les accouchements se font à domicile. Et en cas d'urgence, l'issue est très souvent fatale pour la mère et l'enfant. Le troisième retard est lié à l'insuffisance du personnel médical. Pour une population totale de 3,5 millions d'habitants, il y a seulement 558 sages-femmes. Et 60% de ces sages-femmes exercent à Nouakchott, la capitale. Autre cause de la mortalité maternelle, les grossesses rapprochées. Docteur Raymond Najar, gynécologue.
La prévention, la contraception, la prévention des grossesses rapprochées, limiter le nombre d'enfants et en particulier limiter par l'information, par la formation, limiter le nombre de mariages.
Le taux de prévalence contraceptive est encore faible, il est de 10% environ. Pour lutter contre la mortalité maternelle, une cellule d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement concernant la santé a été mise en place. Cette cellule, dont les activités ont pris fin, a équipé certains hôpitaux régionaux en blocs opératoires, en banque de sang, en matériel d'imagerie médicale. La cellule a également appuyé la formation du personnel de santé. Autre action visant la réduction de la mortalité maternelle, le forfait obstétrical. Docteur Amadou Racine, gynécologue.
Femme enceinte adhère au forfait en payant environ 5 500 ougiyas. En payant ce forfait en une fois ou en deux fois, elle aura droit à 4 consultations prénatales, elle aura droit à l'accouchement et ensuite les visites postnatales avec son nouveau-né.
Pour plus de résultats, l'objectif est d'étendre ce forfait obstétrical à toutes les régions du pays. Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et nous partons maintenant au Bénin où les habitants sont confrontés à des difficultés immobilières. Loyers excessifs, expulsions, parcelles litigieuses, autant de problèmes qui soulèvent des questions relatives aux lois sur le foncier et le logement. L'enfer de l'immobilier à Cotonou, c'est le reportage de Ginette Fleur-Adondé.
Se loger au Bénin n'est pas chose aisée. Avoir un appartement à louer reste une preuve de force. Un projet qui vous ruine si vous n'êtes pas chanceux. Une véritable pagaille régit le secteur et profite plus aux propriétaires de maisons que les locataires qui, pour la plupart, s'endettent pour se loger.
Louer une chambre au Bénin, c'est les avances qu'il faut payer, la caution électricité qu'il faut payer. Donc, c'est souvent très, très, très difficile. Je trouve que c'est très compliqué pour le niveau de vie du Bénin. C'est très, très, très compliqué.
Lorsque vous devez clore le bail, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre caution entièrement. Il va falloir faire des va-et-vient et même quand le propriétaire trouve un nouveau locataire qui lui paie entièrement la caution demandée, il vous tourne en rond. Ça, c'est un cas que j'ai vécu personnellement.
L'absence d'une loi pour réglementer le secteur rend la situation plus difficile. Les propriétaires de maisons font de la surenchère, augmentent le loyer au gré de leurs humeurs et n'ont aucun scrupule à renvoyer à la rue femmes et enfants.
Voilà un pays où vous n'avez pas de test de loi qui fixe les loyers à payer lorsque vous trouver dans des appartements de telle dimension. C'est le propriétaire qui t'impose sa loi.
Je ne condamne pas celui qui, par faille de la loi, fait mal. Je condamne la loi qui n'existe pas et je propose qu'on la mette rigoureusement pour qu'il y ait moins de zèle chez les propriétaires et qu'il y ait aussi moins de mauvaise foi chez les locataires parce qu'il y a des locataires aussi qui ont très mauvais caractère. Hein.
Entre le propriétaire et le locataire se trouve un intermédiaire appelé démarcheur qui reste à tout point de vue un géant tous coincé dans la gorge du locataire. Pour la majorité propriété illettrée, ils se servent du besoin pressant des locataires pour se faire de l'argent, souvent avec la complicité des propriétaires.
J'aperçois ça comme une sorte d'arnaque. On n'a pas des agences immobilières vraiment régulières, vraiment sécurisantes, qui peuvent réellement répondre aux attentes du locataire.
Aujourd'hui, pour les Béninois, il est impérieux que le législateur se penche sur la question afin de voter une loi pour siffler la fin de la récréation.
Une chose est de voter une loi, l'autre chose est de faire en sorte que cette loi soit connue de tout le monde et que les sanctions soient réellement appliquées à tout contrevenant de cette loi-là pour que les gens se mettent réellement au pas.
La location d'appartements est même un moindre mal quand on considère le drame qui entoure la vente des parcelles où plusieurs d'entre elles sont déclarées en litige pour le simple fait que certains propriétaires terriens, les yeux plus gros que le ventre, vendent les mêmes parcelles à plusieurs personnes. Vivement le vote d'une loi pour assainir le secteur de l'immobilier au Bénin pour mettre fin à la souffrance de certains propriétaires un jour, sans domicile fixe le jour suivant. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En Guinée, à quelques semaines du jeûne musulman, le Ramadan, les mairies sont débordées par le nombre croissant des demandes de mariage. Le pays vit au rythme des cérémonies suivies de cortèges et autres embouteillages dans la circulation. Zakaria Camara, à Conakry, nous peint le tableau.
Des cortèges de véhicules ou de motos, tels sont les maîtres des rues de Conakry à l'approche du mois de Ramadan. C'est la période des mariages.
Beaucoup cherchent la bénédiction de la famille en ce moment. Donc ils préfèrent attendre à l'approche du mois de carême pour le faire.
C'est bon, c'est un mois qui porte de la chance au couple. Et les gens veulent, pendant le carême, qu'ils ne soient pas célibataires, que sa femme ne traite pas. C'est légitime dans tous ces facteurs-là.
Bénédiction, mais pas seulement. Pour tout autre citoyen, le mois de jeûne musulman est mieux indiqué pour apprécier la nouvelle mariée dans certaines familles.
Si les gens ont plus tendance à se marier avant le mois de carême, c'est que le mois de carême est béni. Surtout chez la femme, c'est elle qui doit préparer le petit déjeuner, tout. Donc, lorsque la femme effectue ses travaux, on va savoir déjà si c'est une femme qui est bonne ou si c'est une femme qui est mauvaise.
À quelques semaines du mois de Ramadan, les mariages sont célébrés presque dans toute la capitale. Une forte demande qui s'expliquerait, selon ce jeune célibataire, par les difficultés d'être seul pendant 30 jours de jeûne.
Ils ne peuvent pas supporter tout le fardeau du mois de Ramadan. Surtout que là, on doit bien manger le soir après une dure journée de travail. Et pour certains jeunes, c'est plutôt difficile de partir chez les parents et manger là-bas. Et voir aussi leur mère travailler, généralement, ça gêne.
Depuis quelques jours, les mariages sont célébrés, même les jours ouvrables. Et les mairies débordées ont trouvé d'autres endroits dans les quartiers pour la circonstance. Des cérémonies organisées créant par endroits des bouchons dans la circulation, comme le témoigne cet automobiliste.
À partir de vendredi jusqu'au dimanche, il n'y a presque pas de route, parce que pratiquement tous les carrefours sont bloqués. Les usagers n'ont pas où aller. Vraiment, c'est une situation quand même très difficile à supporter.
En 2015, près de 3000 certificats de mariage ont été signés à la mairie de Matoto, un tiers célébré à l'approche du mois de Ramadan. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Birthday in the world. Birthday in the world.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Howie Smith. Présentation Morgane Guerriac et chez Robin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La conversation se poursuit sur Facebook, où vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous ou ce que vous pensez de nos émissions. Posez aussi des questions, nous y répondrons dans nos programmes interactifs. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.